之时，高枕无忧。
Ancien ministre de la Santé et des Affaires Sociales du gouvernement de feu le président Laurent Désiré Kabila, le docteur Jean-Baptiste Sondji est aujourd'hui l'invité de Grand Témoin. Docteur Jean-Baptiste Sondji, soyez le bienvenu.
Merci.
Comment allez-vous?
Je me sens très bien. Il n'y a que le pays.
Vous avez non seulement une longue carrière politique, mais aussi une carrière de médecin. Nous aurons ainsi l'occasion de faire le point de ces deux secteurs au cours de cette émission. Commençons par parler de votre enfance. Le 7 avril 1948, vous voyez le jour à Kilunda, dans la province du Bandundu. Vous êtes marié et père de 8 enfants. Parlez-nous de votre enfance.
J'ai mené une enfance en fait relativement facile, du fait que mon père était fonctionnaire colonial. Vous savez, il était diplômé de l'école normale en 1939. Donc,
déjà,
oui, c'était un peu les intellectuels de l'époque. Il était candidat frère joséphite. Lorsque les jésuites ont créé la congrégation de frères joséphites du Congo, il était parmi les 7 premiers postulants. Alors, il a quitté les ordres et puis donc, il a assuré dans la fonction publique. Donc, on a mené vraiment une enfance qui n'a pas posé de problème. Mais en même temps aussi, du fait que mon père était évidemment de la mouvance jésuite, parce que chez nous, dans le Kwilu, l'évangélisation a été surtout faite par les jésuites. Donc, on a eu quand même une éducation assez rigoureuse, avec des principes tout à fait clairs, une grande rigueur morale. Mon engagement politique, il a commencé en fait lorsque j'étais au collège Kignati. Lorsque, vous savez, les pères ont payé des frais pour transporter les élèves. Or, moi, par rapport au collège Kignati, je n'étais pas loin. Donc, moi, j'allais par mes propres moyens. Alors, j'étais réclamé au directeur. Moi, écoutez, je ne comprends pas pourquoi, alors que je ne profite pas des véhicules, pourquoi est-ce que je paye? Alors, le directeur va m'expliquer que, vous savez, vous menez peut-être une vie relativement facile, mais il y en a d'autres qui n'ont pas les mêmes moyens que vous. Donc, l'argent que vous payez, ça sert à compenser ceux qui n'ont pas. C'est à partir de ce moment-là que j'ai pris conscience quand même qu'il y avait vraiment des gens qui ont aidé. Et c'est là qu'est parti mon engagement social et politique.
Alors, cette enfance rigoureuse avec un père qui a failli devenir prêtre, il faut le dire, vous a-t-elle laissé le temps de jouir pleinement des jeux d'une certaine turbulence accordée à l'enfance?
Non, je n'ai pas été turbulent, non. Non, on était vraiment organisé. On faisait du jeu, le sport qui était programmé, le sport au collège, mais mener une vie un peu en dehors d'une ligne tracée, ça non, je n'ai jamais mené une quelconque aventure.
Vos études primaires, vous les faites dans plusieurs écoles, mais c'est au collège des frères de Kinzambi que vous décrochez votre certificat d'études primaires. Vous m'avez avoué, hors micro, être passé dans plusieurs écoles, est-ce dû à une conduite peu recommandable?
Non, c'est parce que mon père changeait. D'abord, je suis né en fait, Kilunda, c'est le village de mon père, mais en réalité, nous ne sommes pas nés à Kilunda. Nous sommes nés en réalité à Kolokoso dans le Congo, mais mon père, qui voulait ancrer nos origines dans son village, il marque que nous étions nés à Kilunda. Mais en réalité, nous sommes nés à Kolokoso dans le Congo, où le papa était fonctionnaire. Et puis de là, il a quitté, il est allé à Dindungi, ce qui fait que j'ai commencé une partie de mes études primaires à Dindungi et dans la mission catholique à Kingunji. Et puis après, il est parti dans le Massimani encore, il est allé à Mokamo, j'étais donc à Bongayasa. Et puis de Bongayasa, je suis allé à Kinzambi. C'est les jésuites donc au séminaire de Kinzambi. Et c'est comme ça donc que, en suivant mon père, j'étais obligé en fait de changer.
Quel est votre poste nom, docteur Sondji?
Mon nom, c'est Jean-Baptiste. Je n'ai jamais pris poste nom dans la mesure où, contestant fondamentalement le régime de Mobutu, ces changements, je les ai estimés un peu fantaisistes. C'est que j'aurais pu comprendre que ceux qui avaient déjà leur nom ou prénom puissent les conserver, mais qu'à partir d'une certaine date, qu'on puisse se permettre éventuellement d'ajouter d'autres noms. Mais en réalité, tous ces changements de nom ont complètement détruit les identités des gens, au point qu'on ne sait plus.
Là, vous parlez au recours à l'authenticité.
Absolument. Bien que mon père m'avait donné un nom, Dibuila Yala Kimbala, c'est-à-dire ce qui arrive à un homme, parce qu'en ce moment-là, j'étais détenu, j'étais donc étudiant prisonnier de M. Mobutu.
Comme nous le verrons d'ailleurs tout à l'heure. Et Sondji, ça veut dire quoi?
Sondji Akimbala, en fait, c'est une fourmi rouge, vous savez, qui rustique, le film rouge typique. Apparemment, mon grand-père ou mon père était particulièrement colérique, et c'est comme ça qu'on lui a donné le nom de son fils.
Et vous n'avez pas la même nature?
Oh, quand même, hein. C'est dit que je suis assez bouillant, parfois, un peu impulsif parfois, hein. Donc je suis assez nerveux, mais en général c'est une façon de s'exprimer, mais en général je n'ai pas de problème avec les gens.
Les études secondaires, vous les commencez au collège Saint-Ignace de Kignati dans le Bandundu pour les achever au collège Albert Ier, l'actuel collège Boboto de Kinshasa. Rappelez-nous quelques noms d'amis d'enfance.
Oh, j'en ai beaucoup. Vous prenez Michel Moutete, par exemple, qui aujourd'hui travaille à l'OGDEP. Vous avez Laurent Massini. Vous avez Anissé Moubiala. Au collège Boboto, j'ai le docteur Bazi, qui est un ami. Maître Kinkela, Jean Marino, ce sont des très grands amis. Voilà.
Et au collège Albert, vous faites quelle option?
Je fais la latin philosophie.
Là, vous vous destinez à quelle carrière?
Bah, déjà, à ce moment-là, je pensais à la médecine. Hein. Je pensais quand même à la médecine. Je n'ai jamais pensé à autre chose que à la médecine.
Radio Capi, grand témoin.
Docteur Jean-Baptiste Songy, ancien ministre de la Santé et des Affaires Sociales du gouvernement de feu le président Laurent-Désiré Kabila, vous avez travaillé comme médecin chirurgien ici à l'hôpital général de Kinshasa, comme consultant à la Gitamine commerciale, mais qu'est-ce que vous avez fait comme études universitaires?
J'ai fait donc ma médecine à l'université d'abord de Lovanium, donc les candidatures, les trois premières années de médecine à Lovanium, et puis j'étais les parachevés à l'université catholique de Louvain, puis avant d'abord de commencer ma spécialisation en chirurgie, j'ai fait le diplôme de médecine tropicale à l'Institut Prince-Léopold d'Anvers, et une année de maîtrise en santé publique à l'ULB, et en 81, j'ai commencé une spécialisation en chirurgie qui a duré 6 ans.
Le 14 mai, vous le savez, c'est la journée mondiale de l'hypertension artérielle. Le rôle de l'hypertension artérielle dans la genèse de l'insuffisance rénale chronique, c'est le thème retenu cette année. En RDC, plus de 30% de la population congolaise est hypertendue. C'est ce que révèlent des études parcellaires réalisées entre 2007 et 2008. D'après Dr Mbuyamba Kabangu, l'hypertension chez plus de 90% des malades n'a pas une cause décelable. C'est ce qu'on appelle l'hypertension essentielle. Elle est née de l'interaction des facteurs génétiques et de l'environnement. Parmi ces facteurs, Dr Mbuyamba cite la consommation exagérée de l'alcool, du sel et une absence d'activité physique qui s'accompagne de l'augmentation du poids. Docteur Jean-Baptiste Songy, quel est l'état aujourd'hui de la santé publique congolaise? Vous qui avez travaillé comme ministre de la Santé et des Affaires Sociales du gouvernement de feu le président Laurent-Désiré Kabila.
Il faut bien reconnaître que l'état de santé des Congolais n'est pas meilleur que l'état de santé du pays de manière générale, dans la mesure où la santé publique c'est un investissement à long terme, c'est-à-dire qu'on en a les résultats que indirectement, mais la santé publique bénéficie des activités économiques des autres. Alors aujourd'hui, quand vous regardez, lorsque notre pays en 60, lorsqu'ils avaient des indices de santé acceptables, l'État consacrait 12% de son budget. Et à l'époque, en 60, aussi étonnant que cela puisse paraître, il y avait au total 400 médecins seulement et à peu près une quarantaine ou cinquantaine d'assistants médicaux, et malgré tout, le système de santé fonctionnait très bien. Mais aujourd'hui, nous avons plus de 6000 médecins, beaucoup plus d'infirmiers, bien sûr avec une population beaucoup plus grande, mais la situation de la santé des populations congolaises n'est pas bonne du tout. Donc, malgré les tentatives qui avaient été faites, parce que rappelez-vous que le concept de soins de santé primaire qui a été adopté universellement est venu d'ici, est venu des expériences, des études qui ont été faites, entre autres à Bamanda, à Vanga, à Kisantu et à Kasongo, pour essayer de revoir un peu comment le penser. Et à cela a été ajouté les expériences de médecins kényans chinois, et c'est ça en fait qui a conduit à la formulation du concept de soins de santé primaire. Et nous étions les premiers, donc dans les années 81, dans la mise en œuvre de ce nouveau concept, le Congo était en avance. était tout à fait en avance. Donc on est arrivé très loin. Malheureusement, on a assisté à un recul lié à toute la dégradation de des conditions sociopolitiques de notre pays. Et depuis lors, le pays a beaucoup de difficultés pour se relever, aussi bien dans le domaine de la santé, le domaine de l'enseignement, comme dans beaucoup d'autres domaines.
Nous évoquerons votre démission du gouvernement de le président Laurent-Désiré Kabila dans le volet politique vous concernant. La santé, vous le savez, figure parmi les 5 chantiers du chef de l'État. Que faut-il à votre avis pour que cela se concrétise?
Je pense que c'est la mise en œuvre effective du concept du soin de santé primaire. C'est-à-dire que, vous savez, la contradiction principale qu'il y a, les difficultés qu'on a, c'est que on a adopté la stratégie de soins de santé primaire comme pour le moyen de faire accéder tout le monde à la santé. Mais la formation des médecins et des personnes de santé est une formation à l'ancienne, classique. Alors, ce qui fait qu'on a beaucoup de résistance dans la mise en œuvre. Alors, les gens pensent que la santé, c'est d'abord les hôpitaux. C'est l'exemple qu'on fait à l'hôpital. Et c'est ce qui fait d'ailleurs maintenant, par exemple, dans le cadre des 5 chantiers du président de la République. Vous voyez, il accorde une grande importance à construire l'hôpital qui est en face du camp Kokolo. Alors que, moi, je ne sais pas si c'est véritablement là qu'on devait construire. D'abord, on ne sait pas si cet hôpital, dans la hiérarchisation de notre organisation sanitaire, on ne sait pas à quel niveau s'inscrit. Parce que chez nous, nous avons à la base les centres de santé, dans une zone de santé, et ces centres de santé réfèrent les malades à un hôpital de référence. Donc, chaque zone de santé a un hôpital de référence. Maintenant, lorsque la référence, l'hôpital de référence n'est pas compétent, on l'envoie à un hôpital de troisième niveau qui est l'hôpital universitaire. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas construire un hôpital qui soit en dehors de ce concept-là. Donc, moi, aujourd'hui, si je devais conseiller le président de la République, on aurait dû absolument réhabiliter les cliniques universitaires, d'abord du fait que c'est le centre de formation, mais en même temps c'est l'hôpital de troisième niveau, de manière à ce que cela ait un impact aussi bien sur la formation des jeunes médecins que aux jeunes personnes médicales. Mais maintenant, on va construire cet hôpital-là. Pour moi, c'est encore la vieille conception. On croit qu'on construit un hôpital. D'abord, un hôpital, vous savez, quand vous construisez un hôpital, les frais de fonctionnement de l'hôpital coûtent 3 fois que le prix de sa construction. Donc, si cet hôpital nous coûte, je ne sais pas moi, 50 millions, pour que ça fonctionne, il faudra 150 millions de dollars. Donc, je pense qu'à mon avis, on ne respecte pas la stratégie qui a été adoptée. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on aurait dû faire autre chose. Encore que la seule explication que j'aurais pu donner pour justifier la construction, la réhabilitation de cet hôpital, c'est d'en faire un hôpital militaire. Parce qu'effectivement, dans la formulation du soin de santé primaire, on avait omis les hôpitaux militaires servis en cas de guerre. Donc, en ce moment-là, ça se comprendrait.
Et en ce qui concerne la formation classique des médecins, tout à l'heure vous en parliez, que faut-il pour adapter l'enseignement de la médecine au contexte mondial actuel?
Vous savez, d'abord, la médecine, tout en tenant compte du contexte mondial, la médecine, c'est tout un service qui a comme objectif de résoudre les problèmes que vous rencontrez. Lorsque, chez nous, par exemple, vous voyez, le problème numéro 1 qui est à la base de la morbidité, de la mortalité des gens, c'est le paludisme, vous n'allez pas construire des hôpitaux pour le paludisme. Donc, il y a toute une lutte qu'il faut organiser pour d'abord combattre le paludisme. Par exemple, il y a une lutte d'abord vectorielle. À l'époque coloniale, nous avions des systèmes qui luttaient contre les vecteurs. Même dans l'habitat, dans la conception de l'habitat, on doit éviter les moustiques. Mais en plus de ça, essayer de faire le diagnostic assez rapidement, qui est relativement simple, dès que quelqu'un est soupçonné d'avoir un malaria, et assurer un traitement efficace. Et ça, comme ça concerne beaucoup de gens, ce n'est pas d'abord les hôpitaux qui vont régler ces problèmes-là, mais je pense que c'est une décentralisation à la périphérie avec des gens très bien formés, et à ce moment-là, on résout le problème du paludisme. Alors, lorsqu'on résout ces problèmes de base, bon, le paludisme, c'est un cas que je donne, vous avez par exemple les maladies comme l'oncocercose, vous avez comme la tuberculose, donc ça peut avoir résolu ces problèmes-là, que maintenant, forcément, les autres maladies vont se sélectionner, et du fait que le paludisme va disparaître, on va se trouver face à des pathologies dégénératives liées à l'âge, par exemple, tout ce qui est cancer, tout ça. Alors, en ce moment-là, effectivement, on peut envisager de mettre sur pied des hôpitaux cette fois-là pour résoudre ces problèmes-là, mais en formant les gens conformément à ces nouvelles acquisitions, aux nouveaux problèmes.
Nous parlions de l'hypertension artérielle tout à l'heure, due à la consommation exagérée de l'alcool, du sel, une absence d'activité physique. Que fait le docteur Sangier à ses heures perdues?
Ben, à mes heures perdues, ben, je circule d'abord. Moi, à des fois, je circule un peu à pied. Il est vrai que je ne fais pas beaucoup d'exercice, mais je veille beaucoup et surtout sur le plan du régime alimentaire. J'essaie vraiment de ne pas prendre de poids, mais il m'arrive parfois volontairement. Par exemple, quand j'habite du côté de Titambo-Magasin, je quitte la gare jusqu'à Titambo-Magasin à pied. Volontairement. Il m'arrive, mais je ne le fais pas régulièrement. J'aurais dû le faire régulièrement parce qu'effectivement, vous sentez très bien que dès que vous prenez un peu de poids, d'abord vous sentez mal et effectivement il y a des poussées hypertensives. Donc ce problème de l'hypertension, surtout dans la race bantou, la prévalence de l'hypertension est très 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 forte et elle apporte beaucoup de gens relativement jeunes parce que le pic de mortalité des AVC est surtout quand même de 45 ans, ce qui est quand même énorme. Alors en plus, notre pays n'étant pas suffisamment médicalisé, beaucoup d'hypertendus s'ignorent. Ça fait un, et en plus, la prise en charge est tout à fait mauvaise.
Quelle est votre nourriture préférée pendant qu'on y est?
Moi, je mange tout. Moi, je suis un omnivore, donc je ne suis pas très compliqué. Moi, je consomme tout ce qu'on me présente, qui est consommable. Donc, je n'accorde pas trop d'importance à ces aspects nourriture. Tout ça, moi, j'estime que ça sont des détails.
Et en ce qui concerne divertissement, musique et autres?
Oh, pour la musique, d'abord, il faut avouer que c'est temps, si je n'ai pas beaucoup de temps d'écouter la musique, puisque je réfléchis beaucoup sur le pays, je fais beaucoup, j'écris beaucoup pour le pays, je lis énormément dans tous les domaines. Donc la musique, quand je l'écoute d'abord, comme je suis fatigué, je fais beaucoup de travail intellectuel, je préfère une musique un peu douce, genre musique classique, ou bien les chansons de Roscoe, mais pas la musique un peu bruyante actuelle, parce que quand vous avez déjà beaucoup de questions, vous êtes fatigué, on a besoin plutôt d'une musique adoucissante.
Une chanson de Roscoe comme Adios c'était par exemple, ce qu'on pourrait proposer à nos auditeurs.
Absolument.
Adios, nyanga nayo esili, malongo lipe motema, kona ebi, elekie. Goma na kia yose, nyanga inanyo, madabo mwala. Na eka kitete, tesa kyo koti, kanga ima kati, alonde se moyo. Sikoyo wana ebi, te yanga inanyo, esponji amo sapo. No vela la dice, te toque un poco, va onda, patio, no va a salir.
Alors, en ce qui concerne le volet politique de votre vie, en 68, vous vous inscrivez à l'université Lovagnum. En 69, avec des amis, vous créez le comité clandestin des tantres. Expliquez-nous cet épisode de votre vie.
Oui, en 68-69, nous entrons donc en première année d'université, et vous savez, c'est en ce moment-là que nous avons des problèmes avec le régime de Mobutu. Et le 4 juin, nous organisons une marche lors de laquelle un grand nombre de nos compagnons sont tués. Alors évidemment, moi personnellement, c'est la première fois que je voyais un mort. Moi, j'étais sur Victoire quand j'ai vu un de mes collègues étendu. C'était une forte émotion, une très forte émotion que je n'ai jamais oubliée. Et je pense que c'est depuis ce jour-là que la rupture entre Mobutu et moi, elle était définitive. On ferme l'université et nous l'envoie chez nous et nous revenons. Et M. Mobutu supprime aussi de la GEL que l'UGEC et ils veulent la remplacer par la JMPR. Nous refusons, nous résistons. Alors avec des amis, comme M. Mavungu Malanda Mamongo, qui était l'éditorialiste de l'époque, nous avait fait une carte blanche disant que voilà, les étudiants en fait étaient des cancres parce qu'ils avaient fui des examens, c'est comme ça qu'ils ont organisé les manifestations. Alors nous avons dit bon, nous allons prendre comme nom de code le comité clandestin des cancres. Alors, c'est nous. Nous avons notre petit feuilleton que nous appelons le FUET, qui nous permettait, en fait, dans la clandestinité, de mobiliser les étudiants et pour empêcher, en fait, la JMPR d'avoir une prise réelle sur les étudiants.
En 71, à la suite des soulèvements étudiantins, vous êtes condamné à la prison à perpétuité et incarcéré à Luzumu. Qu'avez-vous fait exactement?
Ben oui, c'est dans la foulée. Donc, c'est toujours ce fameux comité de clandestins des cancres, voyant qu'il avait prise sur les étudiants, c'est ce comité qui va organiser le premier anniversaire en 1970, à l'occasion d'ailleurs de Laura Baudin viendra faire une visite officielle ici. Et cette petite expérience était très très bien passée. Alors, en 71, nous organisons une manifestation de plus grande ampleur, où nous utilisons les cercueils, nous organisons des enterrements symboliques. Alors, suite à cela, ben, Mobutu était furieux, parce qu'en fait, il y avait un tract qui injuriait un peu sa mère, mais ce tract ne venait pas de nous. Alors, c'est comme ça qu'il était furieux, il a décidé donc d'enrôler les étudiants dans l'armée. Et nous, qui étions les meneurs, nous étions 12, ben, nous nous sommes retrouvés d'abord dans des cachots du clan Tchatchitier à l'EUA. Et puis finalement, nous étions condamnés à perpétuité et on nous a amenés à la prison de Luzumu. Nous sommes restés là quelques temps.
C'est en fait l'école secondaire que vous commencez votre engagement politique, comme vous nous l'avez dit. À un moment, vous aurez même des liens avec Laurent Désiré Kabila. À quel moment précis?
Absolument. Lorsque nous sortons de la prison de Luzumu, directement, je suis inscrit à Louvain parce que le programme était le même. Hein, le programme de médecine était le même. Donc, je me suis trouvé une bourse et nous nous retrouvons à l'Université catholique de Louvain où là aussi nous rencontrons les anciens de l'UGEC qui étaient là. Alors nous reprenons notre lutte politique. Alors nous disons au lieu de le faire de manière éparpillée, il nous fallait voir un peu ce que la rébellion résiduelle du côté de Sisi Baraka dirigée par Laurent Désiré Kabila, où est-ce qu'il en était. Et avec le professeur Mbaya qui était professeur à l'Université de Cologne, ensemble donc, on écrit à Kabila, effectivement, Kabila nous dit non, que nous pouvions venir. Alors, nous voulions profiter des vacances, nous étions entre autres avec le Constantin, où nous devions aller avec d'autres, mais suite à une certaine indiscrétion, nous ne sommes pas allés parce que ça comportait beaucoup trop de risques. Donc, on avait loupé cette opportunité d'aller un peu voir ce qu'il faisait, quels étaient ses points forts, quels étaient les points faibles, de manière à ce que nous, de notre côté, nous puissions le renforcer dans sa lutte contre le régime dictatorial de M. Mobutu.
Docteur Jean-Baptiste Sangi, je rappelle que vous êtes ancien ministre de la Santé et des Affaires Sociales du gouvernement de feu le président Laurent Désiré Kabila. En 88, vous revenez au pays et on vous a vu très actif dans l'opposition. Mais pourquoi avez-vous refusé d'intégrer l'Union sacrée de l'opposition à l'époque?
Mais vous savez, nous, c'est nous qui avions déjà commencé à combattre le régime de Mobutu. Et à l'époque, quand nous étions en prison, lorsqu'on a tiré sur nous, le 4 juin 1969, M. Tisséguel était ministre de l'Intérieur. Lorsqu'en 71, on nous arrête, nous sommes condamnés à perpétuité, il est l'ambassadeur de M. Mobutu au Maroc. Donc, pour nous, lorsque nous combattions Mobutu, c'est pas uniquement Mobutu en tant qu'individu, mais c'est bel et bien le Mobutisme. Alors, lorsque, effectivement, le changement des années 90 arrive, bon, nous disons, nous sommes contre Mobutu, nous pouvons faire une alliance conjoncturelle avec les Mobutistes d'hier, qui sont contre Mobutu aussi, mais cela ne veut pas dire que parce que nous nous unissons contre Mobutu, que nous partageons les mêmes valeurs. Nous savions que tôt ou tard, à un moment donné, ils allaient se rencontrer, c'est ce qui s'est d'ailleurs passé avec l'Union sacrée. On a vu que Mobutu a poussé en fait régulièrement au sein de l'Union sacrée pour la fragiliser. nous, nous avions créé plutôt le Front Uni de l'opposition qui regroupait des formations politiques un peu progressistes, mais qui, sous le plan idéologique, étaient tout à fait différentes de, non, des gens de l'Union Sacrée.
Il faut dire que par vos multiples contacts, vous avez facilité l'entrée des troupes de l'AFDL de Laurent Désiré Kabila à Kinshasa en 97. Comment cela s'est-il passé?
Vous savez, quand on a vu que la Conférence nationale, en fait, n'avait pas porté les changements souhaité et que Mobutu faisait de la résistance, un jour je suis à Bruxelles et des officiels ougandais nous contactent. Ils disent, écoutez, avec M. Mobutu, vous n'allez pas par des négociations, vous n'obtiendrez rien, mais il faut utiliser la force, il faut le chasser par la force. Et moi j'étais tout à fait de cet avis-là. Alors ils nous diront que les Rwandais, ici pour le moment, les Rwandais sont en train de préparer leur retour chez eux. Alors, vous pouvez profiter de ça en envoyant vos militaires ici, sous prétexte d'aider les Rwandais, en réalité, dès que le Rwanda ne sera qu'un transit, et vous allez continuer pour chasser M. Mobutu. Alors, je suis venu, comme en ce moment-là, je faisais partie de la coordination de l'opposition, représentant le Front de l'opposition, j'en ai parlé à M. Tshisekedi. M. Tshisekedi me dira, bon, ok, moi je suis un pacifiste, mais l'idée n'est pas mauvaise, mais si toi tu peux t'y engager, tu peux y aller. Alors moi je dis, mais moi je n'ai pas le même aura que vous pour mobiliser les gens. Bon, finalement, l'affaire n'avait pas tout à fait fonctionné. Et puis quelques temps après, il y a eu des déclenchements effectivement de la guerre des Rwandais contre Habyarimana. Alors, nous avons dit à M. Tshisekedi, voilà ce qu'on nous avait promis, voilà ce qui est en train d'arriver. Alors nous avons intérêt à exacerber les contradictions entre l'opposition et M. Mobutu, de manière à ce que cela facilite l'avancée de Laurent Désiré Kabila, et que, à partir de ce moment-là, eux ne pourront pas ne pas tenir compte de nous. Donc, nous serons des alliés objectifs. Et donc, il fallait éviter de renouer avec M. Mobutu. Il a refusé, il est allé le voir Cap Martin. Alors, nous avons dit, écoutez, nous rompons avec lui. Nous préférons suivre le mouvement qui vient de l'Est. Et en janvier, alors j'étais en train d'opérer, on m'a envoyé un émissaire, et avec cet émissaire-là, donc nous sommes entrés en contact avec les gens de Kabila.
Jusqu'à ceux qui sont arrivés à Kinshasa. Et en guise de récompense, Laurent Désiré Kabila vous nomme ministre de la Santé, mais vous démissionnez après. Pourquoi, brièvement?
On a eu des contradictions. D'abord, le président Laurent Désiré Kabila a souffert en fait du caractère hétérogène du groupe qui était autour de lui. Les gens qui voulaient simplement remplacer Mobutu pour exactement faire la même chose. Alors, très vite, au sein du gouvernement, il y a eu ce clivage-là. Ce clivage était devenu très net et il y a eu donc une guerre sourdine entre nous et cet autre clique-là. Alors, M. Laurent Désiré Kabila était un homme intelligent, qui comprenait très bien la nature, mais il a cru qu'il allait avoir le temps. Et c'est comme ça qu'il va se laisser influencer beaucoup par ce groupe-là. Alors, finalement, les contradictions seront telles que, un jour, il nous appelle, c'est pas lui, mais le Kamad Viroda nous appelle, entre autres, il y avait Maître Kinkela, il y avait Mova, plus un autre ministre de l'économie dont j'oublie le nom aussi, qui est un frère de Bandungu d'ailleurs, et à moi-même, il nous appelle, c'est le vendredi 13 novembre, 98, et le Kamad Viroda nous dit ceci, il me dit, voilà, nous sommes en pleine guerre, et il faudrait absolument que les Rwandais s'en aillent. Oh, les Rwandais, pour qu'ils enlèvent leurs troupes, ce sont les Occidentaux qui doivent leur faire pression. Alors, c'est pour cela que je demande à ce que les gens les plus éclairés, ceux qui comprennent très bien le danger ici, comme vous, je vous envoie, choisissez. Soit Washington, soit Londres, soit Paris, soit Berlin, ou Abidjan. Les grandes ambassades, en tout cas, mais vous aurez le ministre d'État, mais votre rôle, c'est d'aller justement essayer de faire pression sur convaincre ces Occidentaux pour qu'ils demandent aux Rwandais de retourner enlever leurs troupes. Alors moi, de répondre, moi, je dis, mais la politique extérieure, c'est le reflet de la politique interne. Or ici, au sein du gouvernement, nous avons des difficultés parce que il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à leur place, qui ne comprennent absolument rien. Alors moi, je m'attendais plutôt à ce qu'on renforce plutôt le noyau d'abord ici. Mais vous m'envoyez à Washington, la lutte est ici. Moi, je suis un militant. Hein. À Washington, je ne vois pas très bien quelle lutte je veux faire. Moi, j'ai dit, écoutez, et puis je lui ai dit, vous savez, ce n'est pas ça, ce qu'on apprend à faire des images, ça c'est un moyen de me faire partir. Je refuse, je préfère rester ici. Si vous ne voulez pas que je travaille avec vous, vous restez ici. Mais après ça, il me dit, ça c'est le premier message, mais le deuxième, c'est que le président de la République me dit avoir rencontré Moïse, et sur base de ce que Moïse lui a dit, il me demande que vous êtes révoqué. Non, à peine rentré au ministère, bah, on m'a arrêté, on m'a mis au GLM. En réalité, on voulait déjà que...
Vous êtes un fait.
Oui, parce que j'étais plus rigoureux sur le plan des principes.
Alors aujourd'hui, pour terminer cette émission, qu'est devenu Dr Sanji?
Bah, je suis un militant politique, je suis très engagé dans mon parti. Nous sommes en train de relancer véritablement l'organisation d'un parti de gauche sérieux, qui va même, j'espère, être le regroupement de tous les partis, de manière à ce qu'en 2011, en tout cas, nous nous présentions dans des meilleures conditions qu'en 2006.
Docteur Jean-Baptiste Sanji, merci d'être passé à Grand Témoin.
Merci.
Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je recevais Dr Jean-Baptiste Sanji, ancien ministre de la Santé et des Affaires Sociales du gouvernement de feu le président Laurent Désiré Kabila, à la technique Sylvain Matungu, à la présentation Alain Hirung. Retrouvez cette émission sur le site de Radio Capi, www.radiocapi.net, où vous pouvez réécouter toutes les émissions de Grand Témoin. Merci de nous suivre à Kalemie, dans la province du Katanga et partout dans le monde.